VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 22 juillet 2016. À la une ce soir.
Une apparente querelle de pouvoir entre deux groupes rivaux entraîne de violents combats dans l'extrême nord du Mali. Cependant, un calme précaire régnait ce matin à Kidal.
Il y a eu des affrontements toute la nuit. On n'entend pas de coups toute la nuit. Jusqu'au matin, jusqu'à 10h, on n'entend plus de coups.
Nigeria, les rebelles du delta du Niger prennent le contre-pied du président Buhari, affirmant qu'il n'y a pas de négociation en cours avec Abuja.
Retour sur le drame des migrants méditerranéens.
Comment évaluer la convention du Parti républicain et la prestation de son candidat Donald Trump? Nous écouterons notre envoyé spécial Idrissa Seloudia à Cleveland.
Mais d'abord, le journal. Un calme précaire régnait durant la journée à Kidal, dans l'extrême nord du Mali, après de violents affrontements hier et ce matin. La coordination des mouvements de l'Azawad, ancienne rébellion Touareg, a pris le contrôle de la ville suite au repli des forces du Gatia, une milice pro-Bamako. On fait le point avec Ateyoub Agintala, ancien maire de Kidal.
J'étais à Kidal depuis des affrontements jusqu'à la fin ce matin. Ils font des combats dans différents endroits de la ville. Donc, il y a un qui est fini, des accrochages qui sont finis vers le pays sud. Donc, il restait le côté nord. Il y a eu des affrontements toute la nuit. On n'entend pas de coups toute la nuit. Jusqu'au matin, jusqu'à 10h, on n'entend plus de coups. Il paraît que les éléments de Gatia sont repliés. Donc, depuis lors, c'est l'accalmie.
Est-ce qu'on a une idée de bilan?
Le bilan, non, j'ai pas une idée. C'est la CIMA qui est là, donc c'est elle qui donne les chiffres. Il y a beaucoup de pertes humaines vers du Gatia. La CIMA aussi a fait quelques éléments. Ils citent leur nom, je le connais pas. Et puis du matériel aussi.
Mais est-ce qu'on a une idée de qu'est-ce qui a provoqué, déclenché les affrontements?
Après, les gens, il y a une formation Gatia qui est rentrée vers Aliou. Ils ont tiré à l'air. Et ça coïncide avec une patrouille aussi d'Aïssia. Donc c'est fini, le bruit des armes a commencé.
Ateyoub Agintala, ancien maire de Kidal. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de l'électricité dans l'air à Boaké. Nous sommes en Côte d'Ivoire. À ce qu'on dit, mécontents de leur facture de courant trop élevée à leurs yeux, des habitants sont descendus dans les rues de la deuxième ville ivoirienne. Écoutez le témoignage d'Émile Séry, un enseignant de Boaké, joint par Bagassi Koura.
Les démobilisés ont fait irruption à l'intérieur de la préfecture de police et ont pris en otage les policiers qui n'étaient pas armés. Donc ils ont emporté les armes et de là, ils sont allés au commissariat de Dar es Salaam, au commissariat de Sokoura. Ces deux commissariats ont été saccagés. Il y a le conseil général aussi qui a été saccagé. Il y a NCA Bank, qui est une banque locale, qui a été saccagée. Il y a le centre de santé de la CIE, qui est dans un quartier qu'on appelle le Feu la Madone, qui a été également saccagé.
Alors, vous parlez de démobiliser, hein? Vous parlez des ex-rebelles?
Oui, ex-rebelles, oui.
Est-ce qu'ils sont nombreux, ils sont visibles?
Je ne les ai pas vus particulièrement, mais vu les échanges de tirs, l'ami policier en question qui était parmi les personnes retenues à la préfecture m'a dit que c'était les démobilisés.
Est-ce que vous savez s'il y a des blessés? Vous en avez vu des morts?
J'ai eu écho de 3 blessés par balle, mais je n'ai pas confirmation.
Alors, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Il semble que les manifestations continuent.
Oui, parce que d'ici, on aperçoit de la fumée en ville et puis il y a un hélicoptère de l'ONU ici qui sillonne la zone.
Sachez aussi que selon l'AFP, une personne est morte et une dizaine d'autres ont été blessées dans ces incidents à Boaké.
Au Nigeria, les vengeurs du delta du Niger nient avoir engagé des pourparlers avec le gouvernement. Le président Muhammadu Buhari a pourtant affirmé que son administration était en discussion avec ces rebelles qui sont à l'origine d'attaques contre des installations pétrolières dans le sud du pays.
République démocratique du Congo, libération de 6 militants de Lucha, un groupe de Goma. Ces membres du mouvement jeune opposé à toute prolongation du mandat du président congolais Joseph Kabila ont bénéficié d'une grâce présidentielle. Ils avaient été condamnés en mars pour tentative d'incitation à la révolte. Ils devraient quitter la prison demain.
Centrafrique, plus de 3000 ex-combattants ont été enregistrés par an par le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion en une année. Tel est le chiffre donné par la mission onusienne en Centrafrique, la MINUSCA, citée par l'AFP. Peut-être la moitié de ces ex-combattants ont déjà accepté de déposer leurs armes, a ajouté un responsable DDR de la mission.
Élections au Ghana, les présidentielles et législatives auront lieu le 7 décembre. C'est ce qu'a annoncé la commission électorale après le rejet par le Parlement d'un amendement proposant d'avancer 2 mois la date des scrutins.
Soudan du Sud, le vice-président et chef des ex-rebelles Riek Machar a fait savoir qu'il ne rentrerait pas dans l'immédiat Djouba. Il désavoue par avance toute tentative du président Salva Kiir de se trouver un autre interlocuteur pour amener la paix. On ne va pas revenir pour se faire assassiner, a déclaré son représentant.
Zimbabwe, l'opposition félicite les anciens combattants pour avoir dénoncé l'attitude dictatoriale du président Robert Mugabe. Les vétérans, soutien traditionnel du chef de l'État, ont joué un rôle crucial dans son maintien au pouvoir depuis 1980. Nous y reviendrons.
Explosion dans le centre-ouest de la Tunisie. Un militaire a été tué par une mine déposée par des terroristes, d'après le ministère de la Défense. C'était lors d'une opération de ratissage pour traquer des éléments terroristes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Près de 3000 migrants et réfugiés ont péri depuis le début de l'année en tentant de traverser la Méditerranée. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'Organisation internationale pour les migrations, qui précise que près de 250 000 ont réussi à atteindre l'Europe. John Lyndon.
Ce nouveau bilan fait craindre que 2016 soit l'année la plus meurtrière de la crise migratoire qui ébranle l'Europe depuis plusieurs années. L'année dernière, le chiffre de 3000 morts avait été atteint en octobre et 1 million de migrants étaient alors arrivés en Europe. C'est la première fois dans l'année que l'on atteint aussi tôt le seuil des 3 000 morts. C'est arrivé en septembre 2014 et en octobre 2015, a déclaré à la presse Joel Milman, porte-parole de l'OIM. Que ce chiffre soit atteint avant même la fin du mois de juillet est assez alarmant. Selon Joel Milman, depuis fin mars, une vingtaine de migrants et réfugiés, en grande majorité d'origine subsaharienne, meurent chaque jour en mer. La route la plus dangereuse relie le nord de l'Afrique et plus particulièrement la Libye à l'Italie, avec 3 migrants sur 4 morts cette année en tentant de l'emprunter.
En France, concernant l'affaire du tueur de Nice, l'enquête avance et la thèse du loup solitaire semble définitivement écartée. Anastasie Tudiech.
Comment Mohamed Lawayej Boulel a-t-il pu emprunter la promenade des Anglais, pourtant interdite à la circulation un 14 juillet, jour de célébration nationale, sur 2 kilomètres qui plus est? À cette question qui hante les esprits, pas encore de réponse, mais une enquête administrative a été ouverte. L'enquête judiciaire, elle, avance, ce qui a permis à François Molin, le procureur de Paris, d'affirmer que la tuerie était un acte mûri pendant plusieurs mois avec des complicités et des soutiens. 5 complices présumés du tueur ont été inculpés, 4 hommes et 1 femme. Ils sont poursuivis pour complicité d'assassinat en bande organisée en relation avec une entreprise terroriste. L'un d'eux, Ramzi A, est aussi inculpé d'infraction à la législation sur les armes en relation avec une entreprise terroriste, tout comme un couple d'Albanais soupçonné d'avoir participé à la fourniture du pistolet avec lequel Lawayej Boulel a tiré sur des policiers avant d'être abattu.
Le président français François Hollande a annoncé la fourniture d'armements lourds à l'Irak le mois prochain dans le cadre de la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique.
Ils seront sur place le mois prochain. De même, le porte-avions Charles de Gaulle, j'en avais déjà fait l'annonce, toujours le 14 juillet, sera déployé dans la région à la fin du mois de septembre. Il nous permettra d'intensifier les frappes sur les groupes terroristes en Syrie et en Irak avec nos avions Rafale.
Monsieur Hollande a également annoncé l'augmentation éventuelle des forces de sécurité françaises de 10 000 soldats en vue de mieux protéger les festivités et rassemblements publics en France.
Un tireur isolé a fait au moins 1 mort et 10 blessés cet après-midi dans un centre commercial près du stade olympique de Munich, dans le sud de l'Allemagne. C'est ce qu'a indiqué l'AFP citant une source policière locale. Cette source n'était pas en mesure de donner des détails sur les causes de cette fusillade.
Le président américain Barack Obama a vanté aujourd'hui les solides liens d'amitié et de coopération existant entre les États-Unis et le Mexique. M. Obama répondait aux questions des journalistes à l'issue d'une rencontre avec le président mexicain Enrique Peña Nieto.
La conseillère du président Barack Obama pour les questions de sécurité nationale, Susan Rice, se rendra la semaine prochaine en Chine, plus précisément à Pékin et Shanghai.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Maintenant, place à notre segment spécial sur la convention du Parti républicain. c'est fini. La grand-messe des Républicains à Cleveland, dans l'Ohio. Donald Trump est le candidat officiel du parti. Idrissa Seloudia, c'est peut-être le moment de faire un bilan. Quels ont été les points forts de cette convention?
L'un des points forts, si je puis dire, c'est le discours d'acceptation prononcé hier soir par Donald Trump. Il s'agissait d'un discours où, en réalité, il a répété ses grands thèmes de la campagne, à savoir l'immigration illégale, la sécurité tant intérieure qu'extérieure. Il a fait allusion aux attentats et à la violence qu'on a vue dans différentes villes des États-Unis et aussi à l'étranger, Paris, entre autres, pour dire que c'est l'insécurité qui règne dans ce pays et dans le monde. Et tout ça, c'est à cause de la faute de Barack Obama qui a confié les affaires étrangères à Hillary Clinton et que c'est une décision qu'il doit certainement avoir regrettée depuis.
Qu'est-ce qui s'est passé durant cette convention, Idrissa Seloudia, qui pourrait aider Donald Trump en novembre et le Parti républicain en général?
Ce qu'on peut dire, c'est que actuellement, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui va l'aider et qu'est-ce qui ne va pas l'aider, dans la mesure où il a délibérément décidé d'exploiter les craintes du peuple américain face à la violence et aux actes de terrorisme auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure. Alors ça, c'est sa stratégie. Ça a marché dans les primaires. Est-ce que ce sera suffisant pour l'électorat général en novembre? Il faudra attendre.
Point négatif de la convention?
Il y a eu beaucoup d'attaques au début contre Hillary Clinton. En général, on s'attend à ce genre d'attaques, n'est-ce pas, dans les conventions. Mais je crois que là, ils ont été un peu trop loin parce qu'ils ont fait fi des conclusions du directeur du FBI et dans certains cas, on les entendait, surtout avec le gouverneur du New Jersey qui a fait le procès de Hillary Clinton devant les délégués.
Hier soir, quand le public scandait « qu'on l'enferme », Donald Trump a en quelque sorte calmé le ton pour dire de préférence « essayons de la vaincre aux urnes en novembre ».
Voilà, effectivement. Donc, on peut dire que ça, c'est quelque chose que beaucoup de commentateurs ont relevé, à savoir qu'il aurait pu mordre à l'hameçon et faire comme avec le gouverneur du New Jersey et laisser les gens dire qu'il faut l'envoyer derrière les barreaux. Et même, il y a un partisan de Donald Trump qui a été jusqu'à dire qu'il faut l'envoyer devant le peloton d'exécution. Je crois que ça aussi, c'est malheureusement l'un des points faibles.
Idrissa Seloudia, il y a eu aussi quelques distractions et pas seulement cette affaire de plagiat de Melanie Trump.
Il y a eu, par exemple, au début, les anti-Trump qui ne voulaient pas lâcher le morceau et qui ont essayé de changer le mode de vote concernant le règlement intérieur. Mais ils n'ont pas eu gain de cause et naturellement, ils n'étaient pas contents. Mais finalement, ils sont rendus à l'évidence et ont accepté de voter. Et puis, il y a aussi le gouverneur ou la gouverneure du Nouveau-Mexique au moment de voter ce jour-là. Je veux dire, quand il s'est agi d'entériner la nomination de Donald Trump, la gouverneure du Nouveau-Mexique, une hispanique, a décidé de tendre le micro annonçant les résultats à quelqu'un d'autre plutôt que d'annoncer elle-même les résultats.
On sait que Donald Trump l'avait critiqué pendant la campagne et Mike Pence, on en a parlé pendant cette semaine, candidat à la vice-présidence, un atout majeur pour Trump?
En tout cas, il avait besoin de lui pour rassurer les conservateurs, les conservateurs bontins de son parti. Et effectivement, ils sont différents, mais en même temps, il y a de la contradiction entre les positions des deux sur des questions telles que, par exemple, l'Irak, telles que les accords commerciaux et bien d'autres sujets.
Idrissa Seloudia, vous serez rejoint à Philadelphie la semaine prochaine par Tatiana Mousseau. Vous étiez en compagnie de Nicolas Pineau. Merci à Nicolas également, à Cleveland. Alors, une projection rapide, à quoi faut-il s'attendre pour la Convention démocrate?
J'ai l'impression que pour ce qui est de l'unité du Parti démocrate, il n'y a pas tellement de suspense. J'ai eu l'occasion aussi de le dire. Il s'agit maintenant pour Hillary Clinton de convaincre le grand public qu'elle est la personne honnête qu'elle prétend être, surtout après le scandale des emails privés. Alors ça, c'est son grand défi.
Merci.
Merci, Gaby.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs.
La Côte d'Ivoire, premier exportateur africain de bananes, a relancé sa production. Le pays, qui produit de la banane depuis plus de 50 ans, écoulait chaque année près de 300 000 tonnes vers l'Union européenne, son principal débouché, avant que la filière ne soit frappée par des inondations destructrices il y a 2 ans. Location de voitures, le groupe CFAO continue son expansion en Afrique subsaharienne. Le distributeur panafricain a signé un nouvel accord de licence pluriannuel avec Avisca Rental. Cet accord couvre une quinzaine de pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Dans son rapport annuel 2015, le groupe faisait état d'un parc d'environ 2700 véhicules et d'un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros en hausse de plus de 10% sur un an. Ici aux États-Unis, Facebook a annoncé avoir réussi le premier test à taille réelle de son drone Aquila, qu'il ambitionne à terme d'utiliser comme relais pour apporter Internet dans les zones reculées de la planète. 4 milliards de personnes, soit 60% des habitants de la planète, n'ont toujours pas accès à Internet.
Morgane Guériec et Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, Morgane.
Nous parlons aujourd'hui du Zimbabwe, situation de plus en plus préoccupante dans ce pays où le président Robert Mugabe vient de perdre le soutien de ses plus loyaux partisans, à savoir les anciens combattants de la guerre de libération. Un communiqué de leur association accuse le dirigeant zimbabwéen de 92 ans de tendance dictatoriale visant uniquement à servir son auto-glorification et celle de ses complices. Pour une analyse, Timothée Donangmaï, adjoint à Johannesburg, Robert Guérengue de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique.
Les anciens combattants qui ont soutenu Mugabe depuis la guerre sur l'indépendance. Actuellement, ils sont fâchés, ils sont frustrés à cause de leurs problèmes économiques et pour eux, ils se sentent que le gouvernement n'est pas en train d'agir pour régler la question qui affecte même les fonctionnaires, qui affecte même la police. Vous savez que même les militaires, on a retardé leur salaire et la crainte dans la sous-région est du fait que pendant la crise de 2008, il y a eu beaucoup de réfugiés de Zimbabwe qui ont fui le pays pour aller en Afrique du Sud, au Botswana et tout ça. Et donc, c'est quelque chose qui affecte le pays dans la sous-région. Et vous savez que la crise économique actuellement, d'un côté, c'est lié à mal-gouvernance parce que il y a beaucoup de corruption dans le pays. Il y a un rapport qui est sorti récemment que le gouvernement de Zimbabwe n'a pas pu justifier 15 milliards de dollars en provenance de mines, de diamants.
Les anciens combattants de la guerre de libération étaient jusqu'ici les principaux soutiens du président Mugabe. Qu'est-ce que leur défection signifie pour l'avenir politique du pays?
Le président de l'association a été chassé par le président et donc ça a pu frustrer les combattants parce qu'ils aimaient beaucoup leur président, le président de l'association. Donc c'est une frustration qui est combinée avec la frustration sur la situation économique et le fait que maintenant ils n'ont pas quelqu'un qui est en porte-parole pour présenter leur situation auprès de la présidence.
Comment voyez-vous le rôle du pasteur Evan Mwarire qui dirige depuis quelque temps un mouvement de désobéissance civile au Zimbabwe?
Vous savez, Evan Mwarire, lui-même, il a déclaré qu'il n'a pas une ambition politique. C'est comme Zimbabwe attendait quelqu'un qui peut les mobiliser contre la situation. Et c'est pourquoi vous voyez que même ceux qui sont partis à la grève ou bien à la manifestation, c'était les fonctionnaires qui travaillent pour le gouvernement. Et Evan Mwarire lui-même, qui subit les problèmes comme les autres citoyens zimbabwéens, c'est lui-même qui a commencé à dire « ça suffit, on a eu assez, donc il faut aller à se manifester ».
Robert Guérengue de l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique nous parlait de Johannesburg.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Amnesty International appelle les autorités ivoiriennes à libérer trois opposants dont le procès s'ouvre lundi. Adou Prosper Dia, Jean-Léopold Messihi et Ange-Patrick Djomon-Bata ont été arrêtés le 15 juillet et inculpés d'attroupements non armés qui pourraient troubler la tranquillité publique. Nathalie Barge a joint à Paris Gaëtan Montou, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest.
Au cours de ces 12 derniers mois, nous avons assisté à des arrestations arbitraires régulièrement. Ça a été le cas en 2015, où plus de 50 personnes avaient été arrêtées, dont la majorité des prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des personnes qui manifestaient leur opinion de manière pacifique. Et cette année, à nouveau, la semaine dernière, tout au moins, j'étais encore en Côte d'Ivoire, où j'ai pu rencontrer des témoins qui étaient présents au moment de l'arrestation de trois personnes qui recueillaient des signatures pour la libération de Laurent Gbagbo. Et ils ont été arrêtés et emmenés au poste de police et inculpés d'attroupement non armé. Et donc, ils vont comparaître en justice lundi prochain. Et c'est dans ce contexte qu'Amnesty demande la libération de ces trois personnes que nous considérons comme des prisonniers d'opinion, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas fait l'apologie de la violence et elles n'en ont pas usé. Et donc, c'était dans ce cadre que nous demandions leur libération.
Est-ce que vous avez eu une réponse écrite des autorités suite à votre lettre, justement votre requête par rapport à cela ?
La requête que nous citions dans le communiqué de presse, elle est liée à une mission que nous avons faite en février et mars dernier. Nous avons rencontré les autorités ivoiriennes. Nous avons fait part de nos préoccupations, dont les arrestations arbitraires liées à la liberté d'expression et d'association. On nous a demandé d'adresser un courrier, chose que nous avons faite. Et à ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse aux préoccupations soulevées dans la lettre.
Alors, vous estimez, ou du moins vous avez constaté, que les droits des opposants sont constamment bafoués en Côte d'Ivoire et que les membres de l'opposition, en particulier du FPI, sont fréquemment harcelés.
Oui, absolument. Les trois dernières arrestations illustrent bien ce que nous avancions. En 2015, plus de 50 militants politiques membres du FPI ont été arrêtés, jugés et condamnés de manière arbitraire, simplement pour avoir manifesté, et trois d'entre elles, c'est dans le cadre d'une conférence de presse qu'elles avaient suivie.
Gaëtan Montou, chercheur sur l'Afrique de l'Ouest à Amnesty International.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, 99 FM.
Découveuse pour nos anges, tel est le nom donné à la campagne lancée par deux jeunes Burkinabés, et Madame Raissa Compaoré et Alain Traoré, dit Alino Faso. Une campagne née d'un drame, la mort de deux jumelles prématurées à cause de l'insuffisance découveuse dans les hôpitaux à Ouagadougou. Elle entend désormais récolter 15 millions de francs CFA pour avoir six couveuses, correspondance de Zoumana Wonoko.
C'est pratiquement avec les larmes aux yeux que Mme Raissa Compaoré est revenue sur le jour où elle a été interpellée par une famille qui venait d'avoir des bébés prématurés.
Nous sommes allés à la recherche des couveuses dans toute la ville de Ouagadougou, les grands hôpitaux, dans les cliniques, les plus grandes cliniques, les plus petites cliniques. Nous avons fait le tour, il n'y avait pas de couveuses. À l'hôpital Yalgado, qui est le plus grand centre de santé urbain au Burkina Faso, il n'y a que deux couveuses. Il y a que quatre couveuses à l'hôpital Blaise Compaoré, l'un aussi des plus grands hôpitaux du Burkina. Nous n'avons pu avoir des couveuses que le lendemain. Donc 34 heures d'attente, ce qui n'a pas été facile pour des bébés qui étaient déjà en difficulté respiratoire. Malheureusement, ce qui a suivi, les deux jumelles sont mortes le lendemain.
Face à cette situation, une campagne est lancée pour achat de couveuses depuis le 11 juillet. Alain Traoré, Alino Faso, co-initiateur de la campagne, fait le point des contributions.
Nous sommes pratiquement à 2 500 000 au jour d'aujourd'hui en termes de contributions des uns et des autres. Et c'est clair que ça paye une couveuse, mais nous en voulons 6. Donc il faut encore redoubler d'efforts pour que nous ayons les 5 autres couveuses.
Malgré la noblesse de cette campagne il y en a qui estiment que c'est à l'État d'acheter les couveuses pour les centres de santé. En réponse, voici ce qu'en dit Alain Traoré à Lino Faso.
Au lieu de se dire tout le temps « qu'est-ce que mon pays a fait pour moi ?» Donc aujourd'hui, c'est une action citoyenne qui va permettre d'avoir 6 couveuses. Ce n'est certes pas énorme 6 couveuses, mais je peux vous dire que pour les différents témoignages que nous recevons des parents qui ont perdu des enfants, j'en suis également victime, je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux.
Sur ce point, apport de l'État, Mme Raissa Compaoré a dit ceci.
Il faut que nous prenions ce problème-là à bras le corps. Il ne faut plus qu'un bébé meure parce qu'il n'a pas eu de couveuse. Pourquoi nous, on ne peut pas cotiser aussi pour nous aider? Pourquoi on ne peut pas le faire? Quand il s'agit d'un organe de l'État, on trouve toujours que non, c'est à l'État de faire.
La campagne, dit-on, va continuer jusqu'à l'obtention des 15 millions de francs CFA qui vont permettre d'acheter les 6 couveuses. Zoumana Wounogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Plein feu sur les stades, les sports avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Morgane, bonsoir à tous.
On commence en football, l'Angleterre a un sélectionneur.
Oui, il s'agit de Sam Allardyce, il a été nommé sélectionneur de l'équipe d'Angleterre de football jusqu'à la Coupe du Monde 2018. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la FA, la Fédération Anglaise de Football. L'entraîneur anglais de 61 ans, la tête de Sunderland en Premier League la saison passée, succède à Roy Hodgson qui avait démissionné à la suite de l'élimination de l'Angleterre par l'Islande dès les huitièmes de finale de l'Euro 2016 en France en juin.
Et Tour de France, première victoire française.
Oui, et c'est Romain Bardet qui a signé cette première victoire française du Tour de France 2016 en remportant la 19e étape ce vendredi à Saint-Gervais-les-Bains. C'est en Haute-Savoie. Le Français décroche sa deuxième victoire d'étape après celle de l'année dernière. Le Britannique Chris Froome, malgré une chute sans gravité, conserve le maillot jaune à 2 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées.
On continue de parler du transfert de Paul Pogba.
Oui, il n'y a pas de fumée sans feu, a réagi ce vendredi l'entraîneur portugais José Mourinho, interrogé par la BBC au sujet du probable transfert record du milieu français de la Juventus, Paul Pogba, vers Manchester United. Mourinho tenterait, selon la presse britannique, en cas d'échec des négociations, de recruter le partenaire de Pogba en sélection, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Blaise Matuidi. Le retour de Pogba, âgé de 23 ans, à Old Trafford, 4 ans après son départ pour la Juventus Turin, pourrait coûter à Manchester United la somme de 119 millions d'euros, le montant offert par Man U à la Juve, selon la presse britannique.
Merci Bagassi.
Merci.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Michel Joseph, présentation Morgane Diayek et chérubin Gaby Dorsil.
Morgane, on ne va pas oublier notre ami Dryden.
Non.
À la console. Thank you, sir. Ainsi va le monde aujourd'hui. On dit un grand merci à nos fans sur Facebook, plus d'un million et demi. On maintient la conversation. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com. Vous y trouverez des galeries photos, des vidéos sur l'actualité et bien sûr plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.